étranges édifices de pierre, des tumulus de formes irrégulières qui contenaient des cendres de morts et d'étranges ouvrages en terre qui évoquaient les guerres de la préhistoire. Cet endroit mystérieux et ensorcelant, cette ambiance déprimante de peuples oubliés, fouettèrent l'imagination de mon ami, qui consacra une grande partie de son temps à de longues marches et à des méditations solitaires. Il s'intéressa aussi à l'ancienne langue parlée dans les Cornouailles. Je me rappelle qu'il s'était mis dans la tête qu'elle avait été introduite par les marchands phéniciens qui faisaient le commerce de l'étain. Il avait reçu un colis de livres de philologie et il s'était mis à rédiger sa thèse quand brusquement, à mon vif déplaisir et à sa grande joie, nous nous trouvâmes engagés sur cette terre de rêve dans un problème plus intense, plus riche de développement, plus mystérieux que tous ceux qui nous avaient fait quitter Londres. Notre existence simple et paisible, notre vie sainement routinière, en furent bouleversées, et nous fûmes précipités dans une succession d'événements qui firent beaucoup de bruit, non seulement dans les Cornouailles, mais dans toute l'Angleterre. Nombreux sont certainement mes lecteurs qui se souviennent encore de ce qui fut appelé à l'époque l'horreur des Cornouailles, bien que l'affaire eût été imparfaitement traitée par la presse londonienne. Aujourd'hui, 13 ans plus tard,